Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Paris Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nous sommes bien le quatrième vendredi du mois et donc c'est la Fondation Copernic qui a investi l'émission Mode d'emploi. Au micro, on retrouve Mathéo et Laurent et Claude aux manettes. Ce soir, nous revenons sur le mouvement social et syndical massif qui s'est déroulé en 2009 dans les Antilles, principalement en Guadeloupe, à travers le lianage contre fautisation, LKP, donc je...
On aura peut-être besoin d'aide, hein, sur le crawl.
Voilà, donc c'est le rassemblement contre les profits abusifs et l'exploitation. Donc la grève générale des Antilles françaises a commencé dans le département d'outre-mer de la Guadeloupe le 20 janvier 2009 et s'est étendue à l'île voisine de la Martinique le 5 février 2009. Donc les revendications principales, qu'on verra peut-être plus en détail, mais de cette grève contre la vie chère, étaient une baisse des prix jugée abusive sur certains produits de base, comme le carburant, l'alimentation, et également des revendications sur les bas salaires. Ce mouvement a été porté notamment par le syndicat indépendantiste UGTG, et ce mouvement a marqué les esprits par la longueur du conflit et le succès, on verra si c'est un succès complet ou relatif, de la mobilisation. Du moins, la mobilisation a été un succès et on verra si les accords ont été un succès. Donc ce mouvement a regroupé une cinquantaine d'organisations et un collectif a été créé à la suite des premiers mouvements qui étaient lancés dès le mois de décembre 2008 concernant le prix de l'essence en Guadeloupe. Des collectifs avec des revendications similaires ont été également créés en Martinique, le collectif du 5 février, ou à Saint-Martin, collectif du 11 février, et également à La Réunion. Donc avec nos invités, nous allons revenir sur le mouvement, ses origines, son déroulement, les suites que ça a donné, les conséquences. Donc ce soir, la Fondation Copernic reçoit trois invités. Gerti Dambouri.
Bonsoir.
Donc vous êtes dramaturge, metteuse en scène, romancière et poétesse française. Vous avez notamment écrit une pièce qui s'intitule « Les Atlantiques amers » qui aborde à travers le mouvement de 2009 les thèmes de l'engagement, de l'exil et de l'étranger. On pourra en reparler tout à l'heure. Nous recevons également Tim Allo qui est...
Bonsoir.
Qui est auteur donc, et qui pratique le slam. Vous avez débuté le slam en mai 2006. On reviendra aussi sur vos œuvres. Vous avez notamment écrit Demoon, l'histoire d'un couple qui, à l'aube d'une nouvelle étape, l'engagement dans la vie commune, se trouve confronté au tumulte des sentiments provoqués en partie par les événements liés au LKP. Donc, vous étiez tous les deux sur place en 2009, donc on pourra revenir sur vos témoignages. Nous avons également Pierre Audin au téléphone.
Bonsoir.
Donc, vous êtes doctorant au Centre d'études et de recherche internationale d'Institut d'études politiques de Paris et vous êtes en train de finir votre thèse « Syndicalisme et protestation aux Antilles françaises, une comparaison socio-historique des champs syndicaux en Guadeloupe et en Martinique ».
C'est ça.
Donc, dès la semaine prochaine, hein, vous pourrez retrouver cette émission, comme toutes les précédentes, sur le site de la Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org, et également sur le site Mode d'emploi.
On va commencer par revenir sur les origines de ce mouvement de grève générale en 2009 aux Antilles et principalement en Guadeloupe. Avec Pierre Audin, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la situation à l'époque? Quels sont les principaux facteurs et les principales motivations du mouvement?
Oui, alors bonsoir, merci pour cette invitation. Donc pour revenir un petit peu sur le mouvement de 2009, donc le mouvement de 2009, ça a d'abord été un mouvement de protestation contre la cherté de la vie aux Antilles. Bon, parce que pour tout un tas de raisons qui sont liées à des monopoles commerciaux, en fait, il faut savoir que la vie coûte beaucoup plus cher dans les départements d'outre-mer et notamment en Guadeloupe et en Martinique, où vous avez par exemple un différentiel de prix d'à peu près 30% dans les grandes surfaces pour tout un tas de produits de nécessité. Et Et donc ça a été, il y a eu une vague de protestations autour de cette vie chère. Alors cette vie chère, elle se traduit pas simplement par des prix élevés, elle est aussi la conséquence d'un chômage massif avec près de 30% de chômage en Guadeloupe et en Martinique, et notamment 50% de chômage pour les 15-24 ans. Donc effectivement, le LKP au départ entendait porter la question de la vie chère et protester contre ces marges abusives qu'on pouvait trouver dans les grandes surfaces, mais dénoncer aussi tout un entrelac de problématiques sociales qui venaient s'articuler à cette question des prix.
Et par rapport aux prix, c'est vraiment le résultat de monopole plus que le résultat de l'importation des produits, du coût des transports.
Alors effectivement, l'argument, il y a toujours un argument qualifié de un petit peu technique sur le mécanisme d'attribution des prix. Alors effectivement, il y a tout un tas de produits qui sont importés aux Antilles, qui sont importés directement de France et dont l'acheminement coûte cher. Première question, pourquoi est-ce que ces produits sont forcément importés depuis la métropole et pas forcément de pays voisins, de la Caraïbe ou du continent américain? Donc c'est pour ça qu'on peut aussi parler de monopole. Et puis il faut savoir que ces marges abusives des grandes surfaces, elles sont aussi le fait d'un processus économique historique qui a été celui du réinvestissement du capital, notamment des grands propriétaires terriens. Puisque quand l'agriculture et la monoexportation, notamment sucrière mais aussi bananière, a chuté dans les années 70, il y a eu une reconversion assez massive du capital, c'est-à-dire que les gens qui étaient propriétaires terriens, donc les béquets bien souvent, pour pas les citer, ont réinvesti beaucoup de capital dans les enseignes de la grande distribution, anticipant le fait qu'il allait y avoir des besoins de consommation, des besoins d'importation, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des gens comme la famille Ayotte ou la famille des Pointes qui sont les détentrices du capital des enseignes de distribution, qui en fait amassent les dividendes et récupèrent les dividendes pour des enseignes comme Carrefour ou comme d'autres enseignes de grande distribution et de supermarchés.
D'accord. Alors, derrière cette question des prix, voilà, y a une question sociale. De propriété des moyens de production, des grandes enseignes de distribution. Et voilà, comme vous dites, c'est souvent les béquets, voire exclusivement, qui sont propriétaires de ces magasins.
Oui, effectivement, c'est souvent le cas. Et puis, la formation des prix, effectivement, elle s'explique en partie par le problème d'acheminement, mais ce qui a été très tôt dénoncé par le LKP et notamment par un certain nombre d'associations de consommateurs qui étaient partie prenante du mouvement, c'était le fait qu'il y avait une opacité extrêmement importante sur la formation de ces prix, et qu'au final, les consommateurs guadeloupéens se retrouvaient forcés d'acheter des produits extrêmement chers, sans savoir quelles pouvaient être éventuellement les alternatives à ça. Alors, une des revendications du mouvement, ça a été l'augmentation des bas salaires, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a une situation sociale et économique très très complexe avec beaucoup de chômage, mais ça a été aussi également le gel des prix dans les grandes surfaces, c'est-à-dire le fait que ces augmentations de salaires et ces augmentations des minima sociaux, elles puissent se traduire par une augmentation du pouvoir d'achat concrète pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens.
D'accord. Donc avant de revenir plus en détail sur les différentes revendications, on peut peut-être parler de la genèse du mouvement LKP. Pierre Audin, et puis après on distribuera aussi la parole à nos invités.
Oui. Alors on va dire, moi, pour la partie que je connais mieux, c'est la partie syndicale du LKP. Il faut savoir que dès le mois de novembre-décembre 2008, en Guadeloupe, il y a commencé à y avoir des rassemblements, des tentatives de coordination de différentes organisations syndicales, notamment après les élections prud'homales en décembre 2008, et un appel de l'UGTG, donc de l'Union nationale des travailleurs guadeloupéens, la principale organisation syndicale de Guadeloupe, a appelé à a organisé une première grève et un premier mouvement de protestation sur le prix de l'essence. Et puis petit à petit, le mouvement a pris d'abord la forme d'une intersyndicale et puis plus rapidement, assez rapidement, d'autres organisations, des organisations politiques, mais aussi des organisations culturelles, des organisations associatives, des organisations du mutuel, ont décidé de rejoindre le mouvement et de faire l'ionnage, c'est-à-dire de construire un front social et politique pour lancer un mouvement de grève et de revendication qui va commencer à la fin du mois de janvier. Alors, entre la fin de décembre et le début du mois de janvier, il y a des tournées qui sont organisées par des militants syndicaux, des militants associatifs, dans différentes communes de Guadeloupe. Il y a des premiers meetings unitaires, il y a des efforts de coordination, y compris dans plusieurs localités, pour préparer ce mouvement de grève et de revendication et pour élaborer en commun une plateforme de revendication avec un volet social et économique, mais également des revendications d'ordre culturel, des revendications environnementales, des revendications en termes d'autonomie de décision politique aussi.
Alors, peut-être oui, j'ai retiré.
Oui, je voulais juste simplement qu'on n'oublie pas la Guyane, parce que effectivement, bien sûr, on est là pour parler du lionnage contre profitation en Guadeloupe, mais le mouvement contre l'essence, le prix de l'essence, avait débuté aussi à la Guyane auparavant. D'accord. Et ça c'est très important parce que c'est cette espèce de convergence de lutte dans plusieurs départements dits d'outre-mer, ça mérite d'être souligné.
Très bien, merci.
Oui, je vais apporter deux petites précisions. La première, c'est que à la suite du mouvement, il y a eu une commission parlementaire qui est venue faire une étude sur la formation des prix et qui a conclu que donc c'est l'État qui conclut qu'on ne peut pas imputer la différence de prix uniquement aux frais de transport. Donc on a une instance au niveau de l'État qui reconnaît effectivement qu'il y a des marges abusives et aujourd'hui ces marges abusives continuent d'exister. Donc ça c'est le premier point qui me semble important. Et l'autre point qui me semble important, c'est que quand le mouvement social en Guyane commence, en particulier par rapport au prix de l'essence, le politique est avec le mouvement. Et Victorin Lurel, qui est président de région de Guadeloupe à l'époque, va en Guyane, fait, on va dire, la photo sur le piquet de grève, revient en Guadeloupe avec l'idée de tuer le mouvement qui s'annonce en Guadeloupe dans l'œuf, en signant un accord avec les pétroliers, les distributeurs, ouais, en Guadeloupe, vers novembre-décembre. Et donc, du coup, on demande à la radio à Elie Domota, est-ce que vous allez continuer à faire ça, parce qu'il y a un accord sur la baisse des prix de l'essence, et lui dit, nous, on verra, parce que il sait déjà à ce moment-là que le sujet, ce n'est pas uniquement le prix de l'essence, le sujet, c'est les rapports sociaux et économiques qui sont entre, pour dire les choses clairement, les blancs et les noirs en Guadeloupe. Et donc, il y a une organisation qui se met en place, effectivement, comme l'intervenant l'a dit au téléphone, autour du fait qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus larges que la question des prix, et que quelque part, le fait que ça perdure laisse entendre qu'il y a des connivences, des complicités, des mises sous silence, et donc il s'agit de faire front et de catégoriser tous les autres intervenants comme étant de l'autre côté du front, en fait.
D'accord. Donc ça, les politiques le perçoivent pas, ou du moins le mettent pas en avant, et concentrent eux leurs efforts leur action sur le prix de l'essence, quoi. Ils ont pas cette perception là qu'ont les leaders syndicaux.
En fait, pour moi, ils font l'analyse de se dire on va casser le mouvement dans l'œuf en essayant d'avoir une baisse sur le prix de l'essence. Et donc du coup, voilà, comme on tue le mouvement dans l'œuf, il y aura rien. Et en face, les mouvements syndicaux en particulier Elie Domota et Gabi Clavier, qui sont à la tête de l'UGTG à l'époque, se disent ok, d'accord, t'as fait ton truc, c'est très bien, mais il y a autre chose, et nous on va manifester et on annonce déjà qu'il y aura des choses qui vont se passer en décembre, en janvier. Et donc c'est pour montrer à quel point le rapport de force il est subtil, on va dire. Il y a des manœuvres, il y a des subtilités, quoi.
D'accord, oui, Gerti.
Non, ce sur quoi aussi les politiques avaient l'intention de jouer, c'est la relation très anxiogène des Guadeloupéens avec le déplacement. Dire, on dit qu'on aime nos voitures, qu'on est toujours en déplacement. C'est, je pense que c'est véritablement anxiogène, c'est-à-dire qu'on est sur un petit espace sur lequel les transports sont très mal organisés et les gens sont très attachés à leur capacité de mouvement. Et donc, faire baisser le prix de l'essence, annoncer tout de suite qu'il y a une baisse de l'essence, que par conséquent, il n'y a pas de raison de bloquer les stations-service, etc., etc., c'est essayer de mettre de son côté la population qui vit très mal les blocages de stations-service et leur impossibilité de se déplacer. Et voilà, et ça... Ça n'a pas fonctionné.
Parce que pour revenir sur la chronologie, les blocages de stations-service ont commencé avant la grève.
Donc il y a eu
à
y a
fin
un...
2008.
Ouais, en fait, voilà, il y a eu d'abord des revendications qui partent de la Guyane sur le prix de l'essence fin 2008. Il y a un accord qui est trouvé en Guyane. Il y a une tentative de proposer une solution politique avant qu'il y ait mouvement en Guadeloupe. Et malheureusement, le 19 janvier. Les propriétaires de stations, les gérants, pardon, de stations-service décident de faire une journée de blocage. Donc, ce qui fait que, de toute façon, tout le monde est attentif à ce qui va se passer, à ce qui va dire le mouvement social qui commence le 20, parce que déjà le 19, alors que ce sont les gérants, donc pas c'est un blocage patronal des stations essence, donc on peut pas attribuer le blocage de l'essence à ce moment-là aux grévistes qui bloquent, qui empêchent la Guadeloupe de progresser, etc., etc. Et du coup, effectivement, comme dit Gerti, ça n'a pas fonctionné.
D'accord. Et alors vous, d'un point de vue culturel, on a vu que le mouvement rassemblait autour de soi des dimensions, on va dire, économiques, sociales, mais aussi culturel. Donc vous avez investi tous les deux, donc je parle à Gerti Damburi et puis à Tim Allo, ce champ pour traduire votre engagement artistique dans cette dimension, dans ce conflit. Peut-être que Tim Allo, vous pouvez nous parler de votre pièce des Moon et puis on écoutera un extrait ensuite.
Oui, alors donc en fait le mouvement se déroule. Je prends, moi j'y suis, à ce moment-là, je suis un Guadeloupéen comme tous les autres. Je suis dans la rue à observer, surtout à prendre conscience de la dimension des choses qui nous traversent. Et en 2010, je réalise que ce mouvement-là, si on ne prend pas, si on n'en laisse pas trace, il risque d'être oublié comme les grands mouvements ont été oubliés par le passé en Guadeloupe. Et donc je décide d'écrire, de fabriquer une trace artistique, de récupérer l'émotion brute pour fabriquer quelque chose qui doit nous permettre à la fois de nous souvenir et aussi de pouvoir revenir dessus, d'en discuter, d'échanger, de pouvoir avoir un dialogue apaisé sur ce qui s'est passé en 2009. Et donc j'écris Des Moon, qui est une histoire entre un homme qui vit en Guadeloupe et sa femme vit en France et rentre au pays pour qu'ils vivent leur histoire d'amour, quand soudain survient le LKP, donc forcément n'ont pas le même regard sur les événements. Et je consacre en particulier dans ce travail-là, donc qui est sous la forme d'un recueil de poésie et d'un album concept. Je m'attarde en particulier sur les aventures d'Yves Jégo. Et puisque je trouve que c'est à la fois emblématique.
C'était le ministre de l'Outre-mer.
De l'Outre-mer et c'est emblématique et voilà quoi. C'est comment dire, limite burlesque, l'aventure qui arrive à Yves Jégo en Guadeloupe.
D'accord. Donc oui, allez-y.
Je voulais dire justement à propos je voulais dire plusieurs choses. Parce que j'ai peur qu'on passe un peu vite sur un certain nombre d'autres aspects de ce mouvement. Dire qu'on a parlé de l'essence, on a parlé de la vie chère, mais il y a des mobilisations qui sont capitales. Il y a la mobilisation au niveau de l'école. qui les écoles sont bloquées, des enseignants sont en grève, mais pas tous, des enseignants sont en grève. Et non seulement ils mèneront la grève, participeront au défilé, etc., mais ils organiseront la suite de la grève, c'est-à-dire comment récupérer les heures de travail, etc., de façon à ce que les enfants ne soient pas perdants. Mmh. Ça c'est vachement important parce que ça signifie qu'il n'y a pas juste des gens qui suivent un mouvement, il y a des gens qui se sentent conscients et responsables d'une population et en particulier de la jeunesse. Il y a les handicapés. Qui lance un mouvement et qui depuis des années réclame qu'on prenne en compte leur situation, leur manière de se déplacer dans la ville, etc. Et ils rejoignent le mouvement et ils défilent également en fauteuil roulant. Et il y a les mutuelles qui disent voilà, on avait une mutuelle, on a des mutuelles auxquelles on est très attaché depuis des dizaines d'années, voire quelquefois 50 ans. Et d'un seul coup, on apprend que ces mutuelles ont été rachetées par reprises par des mutuelles de France hexagonale.
Du fait de la loi,
et que les gens sont en train de perdre un peu comme si dans les subprimes, là, on avait acheté des choses et que... On perdait ses acquis, enfin, ce qu'on avait. Bon. Mmh. Et on pourrait développer comme ça, à l'infini, les différentes couches qui ont participé à ce mouvement. Et il ne faut pas qu'on oublie qu'il y avait une plateforme de 120 revendications. Ouais.
On va en aborder quelques-unes, les principales, juste après cette première pause musicale. On va écouter un morceau de Timalo, de son album Demoon, le morceau Jego qu'on évoquait tout à l'heure.
La police en faut qu'on blinde, pas avoir bout à l'UGTG. Et moi, ça se nous sait qu'à faire éviter. Toute la voile de pousse à moi, on ne peut pas qu'être qu'on a la vie là. Consommation arrêtée, voici par à rouler, moule vini et néo. Bobo, viré pas si bon. Et Besançon, nous carré blague à Mélenchon, l'UMP, l'Union pour maintenir la profitation. Oh oh.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM pour l'émission Mode d'emploi. Donc nous venons d'écouter un extrait de Jego qui fait partie de l'album Demoon signé Timalo. Donc vous pouvez retrouver en partie sur YouTube ou sur le site de Timalo et avec aussi les sous-titres en français pour ceux qui ne parlent pas créole. Donc on va revenir à notre débat de ce soir qui revient sur les mouvements contre la vie chère dans les Antilles et dans les territoires d'outre-mer en 2009. Juste avant, on va consacrer une minute à l'actualité de la Fondation Copernic. Donc sur le site de la Fondation Copernic, vous pourrez retrouver des textes sur la mobilisation autour de la réforme du Code du travail, et notamment des textes qui s'appelle Fortifions le Code du travail. Vous retrouverez également des informations sur les états généraux de la santé des travailleurs et des travailleuses qui se tiennent le 16 et le 17 mars. Et puis bien sûr toutes les notes de la Fondation Copernic que vous pourrez retrouver en ligne, les commander ou en format PDF. Donc on va revenir au débat de ce soir.
On va redonner la parole à Pierre Audin. On a abordé le déroulé du mouvement. Voilà, donc c'est pour rappeler un petit peu aux auditeurs, c'est la grève générale a duré 44 jours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment elle s'est déroulée, les principaux événements qui se sont déroulés durant ces 44 jours?
Oui, alors bon, déjà pour se représenter un peu le caractère exceptionnel du mouvement, donc c'est, on l'a dit, hein, 48 organisations guadeloupéennes qui se mettent ensemble pour défendre une plateforme de plus de 200 revendications. Donc le mouvement commence à la date du 20 janvier, qui a été choisi par les organisations syndicales comme première journée pour la grève générale. Et puis, petit à petit, on assiste à des manifestations de rue extrêmement importantes extrêmement importante dans plusieurs localités en Guadeloupe. Alors d'abord dans la région pontoise, et puis petit à petit dans un certain nombre de localités guadeloupéennes. Alors je pense qu'il y a un moment dans le mouvement LKP où tout a un peu basculé, c'est que après plusieurs semaines de grève, en fait, le préfet et puis les élus guadeloupéens ont décidé de convoquer des négociations qui ont eu lieu à Jarry, au centre World Trade Center de Jarry. Et ces négociations ont été filmées dans leur intégralité et retransmises sur une chaîne de télévision guadeloupéenne. Et alors ce moment a été
ça très aussi, c'est une particularité d'un mouvement social. C'est assez rare de voir en direct, enfin je ne sais pas si c'était diffusé en direct, mais de filmer les négociations.
C'était en direct, oui.
Ouais. C'était une volonté de quelle partie ?
Au départ, ça avait été... ça a été plutôt organisé à l'initiative du préfet et puis à l'initiative des élus guadeloupéens et du patronat. Quand j'évoque ces négociations avec les syndicalistes du LKP, ils avaient senti venir une espèce de piège. C'est-à-dire que pour eux, il allait y avoir une espèce de manœuvre pour court-circuiter le mouvement, en espérant déclencher une réaction d'hostilité de la part du LKP pour mieux le stigmatiser aux yeux de la population guadeloupéenne. Or, ça n'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc les négociations sont passées à la télé et les représentants du LKP qui étaient à la table des négociations ont commencé à avancer les revendications, ont commencé à argumenter sur les revendications que contenait la plateforme, à poser des questions aussi au préfet, aux élus sur ce mécanisme de la formation des prix. Pourquoi est-ce que les marges étaient aussi abusives dans les grandes surfaces? Et puis, à faire tout un travail de dévoilement des dysfonctionnements économiques, des dysfonctionnements du pouvoir aussi. Et là où les négociations avaient été pensées, je pense, comme une espèce de piège tendu au LKP, elles ont en fait discrédité très largement les élus guadeloupéens et le patronat qui ont quitté la table de négociation un peu la queue entre les jambes. Et le lendemain, au lendemain de ce départ de la table des négociations, c'est là qu'on a enregistré les plus fortes mobilisations en Guadeloupe avec plus de 80 000 personnes. Enfin, on estime entre 80 000 et 100 000 personnes dans la rue. Donc, sur un territoire de 400 000 habitants,
c'est énorme.
Plus du quart de la population guadeloupéenne qui descend dans la rue.
Juste deux petites précisions. Quand le préfet Nicolas Desforges quitte la table des négociations le 28 janvier, les élus restent. Il y a donc le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'association des maires restent à la table des négociations et continuent eux à négocier. Donc ce qui était flagrant, c'est que non seulement le préfet se lève, et que les élus ne se lèvent pas, mais certains des administratifs, donc les directeurs de service, en particulier le directeur départemental du travail, restent à la table des négociations. Donc en fait, c'est surtout une démonstration flagrante d'une part que le mouvement connaît ses dossiers. Il y a des spécialistes qui prennent la parole sur les thématiques. Spécialiste de l'agriculture, spécialiste de l'eau, spécialiste de la question des prix, spécialiste des questions douanières, qui prennent la parole, qui posent des questions de façon calme et posée, qui ont des idées,
documents.
Des idées, des documents et des propositions qui sont concrètes. Et en face, personne n'est prêt. Et tout le monde était persuadé, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, qu'on allait assister à une vocifération de la part des syndicalistes, et au contraire, on a une démonstration de proposition politique, et en face personne n'est prêt. Du coup, le préfet s'en va pour ne pas étaler plus avant sa déculottée, quoi.
Et c'est capital, parce qu'à ce moment-là, la population qui est en train de regarder la télévision et la retransmission des négociations...
Parce qu'il n'y a que ça, il faut dire qu'il n'y a que ça à la télé.
Il n'y a que ça à la télé. C'est une chaîne, une petite chaîne, on dirait en créole marron. Non, elle n'est pas marron.
Oui, c'est une chaîne locale, une chaîne de proximité qui commence.
Et en réalité, la population non seulement découvre l'étendue du désastre, mais en plus, lorsque ces gens se lèvent et que quasiment tous les gens qui se lèvent ne sont pas des Guadeloupéens originaux, enfin du pays.
Ils sont en Guadeloupe de fraîche date.
Voilà, du coup, les gens se disent, mais par qui est-ce qu'on est dirigé? Et ça fait comme un déclic dans la tête des gens, c'est-à-dire que depuis toujours, les gens savent qu'ils sont dirigés de l'extérieur, qu'il y a peu de représentants des fils du pays qui ont fait des études, etc., qui trouvent des postes aux directions extérieures, les directions des services extérieurs de l'État. Cette manifestation claire, visible, tout de suite, c'était la force de l'image a été déterminante aussi.
Et le patronat ne participait pas à cette table de négociation?
À celle-là, non. Alors, il y a deux éléments qui parachèvent l'exaspération de la population. C'est que au moment où le préfet se lève, et donc du coup, les Guadeloupéens du coup attendent une réponse forte de l'État. Yves Jégo intervient dans une vidéo sur un site internet, sur Dailymotion, le site internet français. Et les gens qui étaient autour de moi sont outrés que la réponse de l'État, c'est sur une vidéo sur Dailymotion. Quoi.
C'est pas déplacé.
Voilà. Que, un, ça choque énormément. Et que deux, lorsque les patrons se réunissent, la photo circule encore sur Internet, elle est facile à trouver. Lorsque les patrons se réunissent pour discuter de la problématique, il n'y a, excusez-moi encore une fois, mais il n'y a que des blancs à l'image. Et ça aussi, ça fait un choc incroyable.
Bien sûr. Pierre Audin, qu'est-ce qui, du coup, à partir de ce moment-là, comment se poursuit le mouvement?
Le mouvement, à partir de ce moment-là, va rentrer dans une phase de... je dirais d'extension et puis d'une certaine manière, d'une certaine façon de radicalisation.
Parce que là, on est autour de quelle date? Donc ça a commencé le 20 janvier, la grève générale et les barrages un peu plus tard.
On est début février.
Là, on est effectivement à la toute fin du mois de janvier, début du mois de février. Il faut savoir, donc, comme je l'ai indiqué, il y a des manifestations de rue très très importantes. Et puis, il y a de plus en plus une forme d'implication populaire. C'est-à-dire que les Guadeloupéens se réunissent sur les places publiques, se réunissent sur les lieux de travail qui sont parfois occupés. Il y a aussi des barrages routiers qui commencent à se mettre en place tout autour des voies de communication de la Guadeloupe. Et puis tous les jours, il faut se représenter ça tous les jours, des assemblées populaires dans le quartier du Palais de la Mutualité à Poitiers qui jouxte le siège de l'UGTG, et puis des prises de parole, alors des prises de parole des responsables syndicaux, mais aussi de responsables associatifs, de simples citoyens, d'artistes engagés. Donc tous les jours, une activité contestataire extrêmement importante. Et puis aussi des mouvements, comme je vous le disais, de blocage, d'occupation, des débrayages avec des grèves marchandes, donc les travailleurs qui s'organisent pour passer d'une entreprise à l'autre, pour discuter, pour organiser des assemblées générales, pour populariser les revendications et puis tout simplement pour se tenir au courant aussi. Alors il y a tout cet aspect militant organisé par les organisations syndicales et politiques, mais il y a aussi tous les réseaux de sociabilité, les réseaux familiaux, les réseaux de voisinage, parce que petit à petit on va aussi rentrer dans une phase de pénurie, et puis des solidarités différentes vont émerger. On va plus seulement parler de politique comme quelque chose d'éloigné, mais au contraire, puisqu'on se rend compte que les élites n'apportent pas vraiment de réponse, va commencer à mettre en place des formes d'organisation alternatives, d'agriculture vivrière, de s'échanger des produits. Enfin, toutes ces choses-là se mettent en place dans un même mouvement dans les semaines qui suivent le début du LKP.
Moi, je voudrais peut-être mettre de la chair un peu dans tout cela, parce que bon, moi, je vis en France depuis 2003 de façon permanente, et en 2009, je suis rentrée exprès pour participer au mouvement. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est premièrement la présence de gens de toute catégorie, de personnes âgées qui pouvaient pas, qui représentaient présentaient leurs enfants. C'est-à-dire, il y avait une vieille dame qui disait, ma fille n'a pas pu venir parce que son patron l'oblige à venir travailler. Elle travaillait dans une toute petite entreprise et elle n'a pas pu venir, mais moi, je suis là pour la représenter. Alors, et il faut aussi dire que, il y a un mouvement qui est organisé depuis le siège du BIC, oui, ce qu'on appelle le BIC, le palais de la mutualité, le lieu de rassemblement, jusqu'à Basse-Terre, à la préfecture. Quand les négociations reprennent, elles reprennent à la préfecture. Donc tous les jours, on se rend devant la mutualité, on attend un autocar, on monte dans l'autocar et on va à Basse-Terre. Et on passe la journée devant la préfecture à jouer des percussions avec des marchands qui vendent de la nourriture. On se retrouve, il y a des gens qui se sont pas vus depuis des années qui se retrouvent et puis régulièrement l'ensemble des négociateurs quittent la table des négociations, viennent au-dessus du mur de la préfecture, nous font un compte rendu et on continue à leur dire non, ne lâchez pas, allez-y, etc. Et donc ils n'ont jamais été seuls. Et ça, c'est absolument phénoménal, parce que aussi parallèlement à ça, les enfants allaient manifester, mais les mamans restaient préparées à manger. Donc quand je dis les mamans, c'est des mamans de 70 ans, 80 ans. Et donc en fait, il y a une façon de participer. Il y a différentes façons de participer au mouvement. Il y a ceux qui sont vaillants et qui vont manifester. Il y a ceux qui organisent le service d'ordre des négociateurs. Il y a ceux qui protègent. Il y a ceux qui font le service d'ordre des manifestations. Il y a les mamans qui sont à l'arrière, qui restent à l'arrière comme les cantinières et qui préparent les repas pour quand on revient. Il y a le fait de se conduire mutuellement parce qu'il n'y a pas d'essence. Donc on se donne des rendez-vous, on va ensemble. Et il y a le mouvement qui dit, systématiquement, le porte-parole du mouvement, qui dit ne laissez personne derrière. C'est-à-dire que personne ne doit rester seul. Personne ne doit être abandonné à l'arrière. On doit tous veiller les uns sur les autres. Et ça crée une relation humaine absolument phénoménale qu'on avait un peu perdu. On se plaignait d'avoir un peu perdu ça depuis quelques années.
D'accord. Du coup, enfin là, on sent aussi l'écrivaine qui parle et qui nous figure la situation, et c'est très intéressant. Vous, du coup, vous avez tenu aussi à traduire ce mouvement dans une pièce, Les Atlantiques amers. Alors, est-ce que vous l'avez vu, vous, cette écriture un peu comme Tim Allo qui nous disait tout à l'heure qu'il voulait contribuer à garder une trace de ce mouvement? Est-ce que c'est la même motivation pour vous?
Moi non, c'est pas la même motivation, c'est tout de suite passionné, quoi. C'est-à-dire que ça m'a tellement émerveillé, ça, que je l'ai écrit tout de suite. Pendant que j'étais sur place, j'étais en train de prendre des notes.
Oui, voilà, écrit tout de suite, ça.
Absolument. Enfin, j'ai pas écrit toute la pièce tout de suite, mais j'ai pris des notes tout de suite. Et je voulais dire, par rapport à la présence du monsieur qui est en ligne là, que
Pierre Audin.
Je trouve que c'est vachement important qu'il fasse le travail qu'il fait, parce que Tim Allo vient de dire quelque chose et en fait on se retrouve tous. Il vient de dire, j'ai écrit pour qu'on ne perde pas la mémoire des choses. Et lui, il travaille sur le mouvement syndical pour qu'on ne perde pas la mémoire du mouvement syndical. Et en réalité, cette mémoire du mouvement syndical, je crois pas qu'on la perde. Je crois pas qu'on la perde, parce que je vais vous donner un exemple très simple. Le jour où Jégo s'en va, je suis en train de me préparer à partir à Basse-Terre, et donc le rendez-vous, c'est à 16h. Jégo a rendez-vous à 16h pour signer le protocole d'accord, parce que le protocole était sur le point d'être signé à 5h du matin. À 5h du matin, ils arrêtent les négociations, donc nous, on rentre chez nous en se disant, on va se reposer un peu pour repartir demain. Et puis au moment où on se prépare à partir, moi j'étais avec des amis dans une petite voiture individuelle aux Abîmes, on entend à la radio que il y a un problème à Basse-Terre. Et la réaction des gens qui étaient avec moi a été immédiate. Si Jégo est parti, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez nous parce que ça va être comme en 67. C'est-à-dire qu'il va y avoir des morts aujourd'hui.
On peut peut-être justement décrire un peu le mouvement de 67.
Oui,
En 67, il y a une grève. Enfin, il y a eu deux mouvements, mais il y a surtout eu une grève à Pointe-à-Pitre qui a été réprimée dans le sang par l'équipe rouge qui était venue un peu avant. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien de morts il y a eu exactement. On pense avec beaucoup d'éléments probants que l'État français en a profité pour abattre des militants indépendantistes qui venaient simplement soutenir pacifiquement cette grève des ouvriers du bâtiment. Et donc cet événement-là, il est de triste mémoire pour toute la Guadeloupe et en particulier pour le mouvement nationaliste et singulièrement pour le GTG qui a été fondé juste après les événements de 67.
Et il y a deux choses donc qui me frappent ce jour-là. C'est premièrement la réaction des gens qui ont peur, qui disent non, on rentre à la maison, ça va, il va y avoir des morts. Et puis on se reprend, on va à Pointe-à-Pitre et on apprend, donc on sait que les camarades qui étaient en train de négocier vont revenir sur la Grande Terre dans des cars. On les attend, on attend leur retour. Et il y a le carnaval, le défilé de carnaval qui se déroule. Et le défilé de carnaval était consacré à une figure indépendantiste de la Guadeloupe à cette année-là, c'était Gérard Lauriette. Et donc il y a une espèce de mouvement de ce carnaval qui avance avec devant une grande pancarte, une grande banderole en soutien à Papa Yaya. Et quand le défilé de carnaval se déroule, au milieu arrivent donc les cars des gens qui manifestaient. Donc on les accompagne. Et tout de suite après, il est décidé qu'il va y avoir un grand spectacle où va chanter Patrick Saint-Éloi. Oui. et Timalo d'ailleurs. Toi, oui, ce soir-là, tu vas faire tu vas dire des textes. Et donc il y a une espèce de combinaison comme ça entre le politique et le culturel immédiatement, qui d'une certaine façon vient apaiser, parce qu'il donne aux gens le moyen d'exprimer une colère qui, si elle n'avait pas été exprimée de cette façon-là, aurait certainement dégénéré bien, bien plus tôt que ce qui s'est passé par la suite.
Oui, Pierre Audin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la suite du mouvement et le chemin vers l'accord qui a été signé?
Alors, oui, la suite est la fin du mouvement. Donc après cette phase d'extension du mouvement, bon, il y a quand même une sorte de stratégie de tension un peu qui se met en place de la part des, c'est-à-dire que bon, il y a différents épisodes. Yves Jégo arrive, il est finalement rappelé par Nicolas Sarkozy à Paris, a priori fortement conseillé par le grand patronat local qui trouvait que les responsables politiques locaux étaient en train de céder face au LKP. Et donc, bon, Yves Jégo est rappelé à Paris, puis revient pour de nouvelles négociations en Guadeloupe. Et puis, une stratégie un peu de tension hein, de la part des autorités, de la part des forces de l'ordre. Alors, comme souvent en Guadeloupe, parce qu'on a quand même une histoire particulière que Timalo a rappelée avec mai 67, des rumeurs qui circulent sur une possible répression. Malheureusement aussi la mort tragique d'un syndicaliste qui a assassiné à ce moment-là Jacques Binot, militant de la CGTG. Donc une sorte de confusion aussi. Et puis dans ces moments très très indécis et très difficiles, ce que raconte, je suis content qu'il y ait ce témoignage ce soir, des moments de calme et des moments un peu de je dirais presque de communion en fait, où il y a beaucoup de dignité qui s'exprime, beaucoup de solidarité et beaucoup de détermination dans l'action collective, parce que c'est quelque chose qui a été pour moi un peu exemplaire. Là je m'écarte un peu de la sociologie pour dire ce que j'en pense, mais j'ai beaucoup de de sympathie et beaucoup d'admiration pour des gens qui ont tenu dans des circonstances comme ça qui étaient assez difficiles. Et puis cette détermination, elle finit par payer puisque au début du mois de mars, le LKP obtient satisfaction sur les revendications et décide quand même de faire, une fois le protocole signé, je sais plus exactement si c'est le 4 ou le 6 mars 2009, donc avec acceptation des revendications, des 200 euros d'augmentation pour les salaires, du gel des prix, décide quand même de terminer la grève en faisant 2 jours de grève supplémentaires pour être sûr et certain que les revendications allaient être appliquées. Donc un mouvement qui sur le moment a été victorieux, enfin, qui est révélé victorieux, et puis un moment, je pense, de soulagement aussi, de voir d'espérance, de voir un certain nombre de difficultés prendre fin dans ce moment-là.
D'accord. Donc cet accord est signé. Donc finalement, on se dit que voilà, pardon, le mouvement est allé jusqu'au bout. Comment, qu'est-ce qui se passe après finalement et jusqu'à aujourd'hui? Peut-être Tim Allo, vous voulez.
Bah oui, parce que, enfin, moi j'ai noté justement dans mon ouvrage que le 25 mars 2010, après donc un an après le mouvement, la Guadeloupe a connu une inflation de 2,6% sur un an, pendant que l'Hexagone connaît une inflation de 1,3% sur un an. Donc ça montre comment cette histoire de prix
l'écart ne se réduit pas mais augmente. En fait.
Voilà. Donc il y a eu une accalmie juste après le mouvement. Ça se stabilise un peu. Il y a l'accord sur le panier des 100 produits de première nécessité. Et bizarrement, très rapidement, ces produits de première nécessité s'avèrent être introuvables. Et donc tout le monde est obligé de se rabattre sur les produits qui sont dits pas de première nécessité et dont les prix flambent. Quoi. Donc ça c'est une des premières constatations. Et
donc
puis
l'accord est contourné là par les industriels
allègrement, ouais. Allègrement contourné et pas seulement sur la question des prix, mais il y a aussi un autre phénomène que je trouve important et Pierre Rodin l'a signalé, c'est que pendant quasiment un mois, les syndicalistes font preuve d'une extrême dignité, d'un très grand respect des biens et des personnes. Ce qui n'est pas le cas, il faut le dire, des syndicalistes qui ont des revendications à peu près similaires en France. C'est-à-dire qu'on récemment encore ce matin, j'entendais parler du syndicaliste Continental qui pour le coup est un délinquant puisqu'il a saccagé une préfecture et la société française accepte ce syndicaliste comme un héros, comme de la lutte syndicale. Il fait du cinéma. Il est bientôt d'ailleurs dans un film. Et ce traitement-là, il est, enfin, en tout cas pour ma part, j'imagine pas la France faire le même traitement à Elie Domota. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une attention particulière qui est portée, à mon avis, sur l'attitude à avoir, sur la maîtrise pour proposer à la population des voies d'action qui soient paisibles. Quand on arrive chez le préfet et qu'il dit, voilà, moi je peux pas vous recevoir parce qu'il faut que je fasse le sapin de Noël des enfants des employés de la préfecture. Les syndicalistes invitent la population à marcher parce que si on reste devant la préfecture, il risque de se passer des choses désagréables et donc ils préfèrent nous inviter à marcher, à scander des chants populaires et des chants revendicatifs, à créer une solidarité entre les Guadeloupéens plutôt que de faire corps contre quelque chose, faire corps pour quelque chose. Et je pense que c'est très très bien vu de la part de ces représentants syndicaux et de ces associations. Et c'est un contraste fort avec entre le traitement qui peut être réservé à ces personnes en Guadeloupe et le traitement des syndicalistes en France.
Gertie-vous un peu quel est votre point de vue 6-7 ans après sur l'évolution de la situation de la Guadeloupe? Le souvenir que vous avez gardé de...
Écoutez, 6-7 ans après, je ne sais pas, je ne pourrais rien vous dire. Parce que je ne connais pas de pays plus imprévisible, de population plus imprévisible que la population guadeloupéenne. Avant le mouvement de 2009, c'était le désespoir partout. C'est-à-dire que tout le monde disait, voilà, mais on était mort, il se passait rien, c'était léthargique, il se passera plus rien, quelques petites manifestations ici et là, etc. Et d'un seul coup, il y a eu cette chose là qu'on même pas encore tout à fait comprise. Je sais pas si on a analysé cette spécificité. Je vois vraiment c'est particulier, cette manière d'avoir l'air d'accepter. Et je crois que les gens devraient se méfier. Cette manière d'avoir l'air d'accepter, voilà, c'est comme ça. Pendant ce temps, on vit tranquillement sa vie et tout. Bon, les gens savent très bien qu'ils sont dans une situation qui n'est pas normale. Ils voient très bien que, je sais pas, moi, qu'ils viennent, ils sont ici. Moi, j'achète ici un pot de faisselle. J'achète ça 2 euros, 3 euros maximum. En Guadeloupe, ça ne coûte pas moins de 8 euros. Et ils le voient très bien. Ils le savent très bien qu'ils sont dans une situation particulière. Donc, a priori, comme ça, on pourrait vous dire, voilà, on les a un peu apaisés, matés. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc, je peux rien vous dire.
Timalo, un mot pour la fin, puisque l'émission touche... touche à sa fin aussi.
Oui, alors je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant, c'est que au départ, le mouvement de 2009, il est poussé par des nationalistes et des syndicalistes, donc des gens qui savent organiser des mouvements de masse. Et aujourd'hui, enfin, j'ai vu encore il y a quelques temps des jeunes avec leur téléphone portable, qu'ils ont l'application de ce supermarché qui permet de comparer les prix et qui utilisent le code barre. Donc ils sont dans le magasin, ils utilisent le code barre et l'application et ils peuvent voir, constater par eux-mêmes l'incroyable différence de prix dans le magasin in situ, l'incroyable différence de prix qu'il peut y avoir. Et par contre, là où je suis un peu apeuré. C'est que ces jeunes n'ont pas cette culture du dialogue, même du dialogue dur, hein, mais cette culture du dialogue, cette culture de la gestion de la masse que peuvent avoir un Domota, un Gabi Clavier ou un La Plaisir du SIPA. Et je crains que les réactions lors du prochain mouvement, parce que je suis sûr qu'il y aura un prochain mouvement, seront plus désordonnées, seront plus violentes et seront moins faciles à gérer.
D'ailleurs, j'en profite juste pour rajouter 30 secondes quelque chose. C'est que lorsque nous marchions d'Anjari, sur les côtés, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient debout, appuyés sur des arbres ou sur des murs et qui nous regardaient passer. Et ils nous disaient en créole, marchez, marchez, marchez toujours. Vous verrez que vous n'obtiendrez rien. Et moi, c'était ma panique, enfin pas panique, hein, mais je me disais, ces gamins, si jamais ils se lâchent, je sais pas qui va pouvoir les retenir. Et je dois dire que je suis absolument persuadée que les responsables politiques et syndicaux ont fait un énorme travail auprès de la jeunesse, parce que si ce travail-là n'avait pas été fait, le pays aurait été beaucoup plus turbulent qu'il ne l'a été.
Pierre Audin, une dernière réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment sur la jeunesse et l'avenir des mouvements, et ce sera le mot de la fin.
Oui, bah moi je souscris en grande partie à ce qui a été dit. Effectivement, ce qui moi me paraît préoccupant, c'est la situation de beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui se retrouvent encore une fois sans travail ou avec des travaux extrêmement précaires, donc du coup qui sont d'autant plus exposés à la délinquance, à la violence. Et c'est vrai qu'on a eu un scénario de grève générale qui a été dépeint comme très dur. Mais on aurait pu tout à fait avoir des émeutes et des mouvements beaucoup plus violents et très similaires à ce qu'on voit en France dans les quartiers populaires. Donc il faut espérer que les Guadeloupéens se remobiliseront et qu'ils sauront le faire. Moi j'espère pour le peuple guadeloupéen de façon aussi déterminée, mais aussi de façon aussi organisée et aussi solidaire que ça a pu être le cas en 2009 pour régler tous les problèmes qui sont aujourd'hui sous de la population guadeloupéenne.
Très bien, je vous remercie. Cette émission passionnante touche à sa fin. Vous pourrez bientôt la réécouter en podcast sur les sites web de la Fondation Copernic, et sur le site web de Mode d'Emploi. Donc on remercie nos invités, Gerti Dambury, Tim Allo, Pierre Audin, et un grand merci spécial aussi à Gaël Octavia qui nous a beaucoup aidé dans la préparation de cette émission. Donc rendez-vous le 25 mars pour la prochaine émission animée par la Fondation Copernic. Il sera question des biens communs. Bonne soirée à tous. On finit avec un dernier morceau d'Aquillo, La Guadeloupe, c'est à nous. Bonne soirée.
Bonsoir.
Capé, ou vas-y à nous. Profitation, idée à Guadeloupe.